Sous quelque rapport qu'on envisage la gourmandise, elle ne mérite qu'éloge et encouragement. Chez nous, c'est l'heure de l'apéro, mais aujourd'hui, Paris est en fête, alors tout est permis et on commence par le dessert. Bonjour à tous, il est 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris.
Y a du monde en terrasse.
Ah bah tu m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre sur pierre de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
En matière de ballon rond que nous sommes champions mondiaux, nous le sommes aussi en matière de gastronomie sucrée. Nous sommes... Et elle ne date pas d'hier, notre excellence en matière de gourmandise. Je ne voudrais pas vous en faire tout un fromage, mais déjà au 19e siècle, Bria Savarin méditait sur le sujet. N'en déplaise aux conventions religieuses, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même beaucoup de mal à résister à la douceur du monde sucré. Et devant un gâteau, je rajeunis de 20 ans. Face à cette envoûtante saveur, je me sens transportée. Ça me rappelle les goûters de l'enfance, les desserts de maman, les fraises cueillies un soir d'été à même le sol. Ces sensations sont peut-être la raison d'être de la pâtisserie. Si par définition, ce mot désignait l'ensemble des préparations à base de pâte, c'est aujourd'hui devenu un mot générique pour nommer les produits sucrés faisant l'objet d'une préparation. La pâtisserie est devenue objet d'art, plat gastronomique à part entière, sujet d'émissions culinaires et les pâtissiers de véritables stars. Oui mais, il y a un mais. Elle semble porter tous les maux. Violentée par l'industrie agroalimentaire, quand elle n'est pas pleine d'additifs, elle est synonyme de gras, de gluten, de produits laitiers et surtout de sucre. Bref, déjà qu'à regarder un bavarois, on avait déjà l'impression d'avoir pris 2 kilos, mais maintenant on craint aussi d'attraper un cancer, d'avoir du cholestérol et du diabète. Même 60 millions de consommateurs parlent cet été du sucre comme ennemi public. Sucre ajouté, caché, raffiné, à index glycémique haut, la traque au sucre est lancée. Et ça, les pâtissiers l'ont compris. Pour continuer à nous régaler, de plus en plus d'artisans font évoluer la pâtisserie et l'on voit émerger des recettes moins, peu, voire pas sucrées. Effet de mode ou véritable révolution, la pâtisserie n'est-elle pas en train de perdre son essence? Ce soir, on passe le sujet à la casserole, on convie religieuses, financiers, diplomates, on vous parle opéra à vous en rendre baba, on vous éclaire comme un phare sur les secrets de la pâtisserie qui se désucre. Et si ma fin d'édito vous semble un peu tarte à la crème, restez quand même un peu, ce ne sera pas plus long qu'un Paris-Brest. Vous l'avez compris, pendant une heure, on va vous parler pâtisserie, avec et sans sucre. On va se demander qu'est-ce que le sucre, à quoi sert-il au niveau physico-chimique, quels sont ses vices et vertus nutritionnelles. Nous ferons une pause avec Elodie avant de nous demander comment on fait des gâteaux sans sucre. Avec quoi, comment, est-ce bon pour le palais et la santé? On vous donnera des conseils, des idées, et cette émission se terminera sur la chronique que tout le monde attend, la fiction de Maxime Faciotti.
Le savarin aux pommes, le chenonceau aux rangs. Le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé au pruneau, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour.
Passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
Petit extrait de Peau d'âne de Jacques Demy. Aujourd'hui, pour discuter affaires non sucrées, nous avons trois invités autour de la table. Christophe Lavelle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle, intervenez régulièrement dans des écoles de cuisine réputées et êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le savoureux « Toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir chef ». Ariane Grumbach, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une diététicienne gourmande et j'aime beaucoup ce titre. Membre référencé du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids et auteur du blog L'Art de Manger.
et d'un livre qui s'appelle « La gourmandise ne fait pas grossir » en référence à votre intro.
Très très bien. Et enfin, un artiste en la matière, ancien compagnon du devoir, anciennement chez Eugène, spécialiste dans les douceurs diabétiques. Vous êtes artisan pâtissier chocolatier, vous venez d'ailleurs d'ouvrir la mutinerie dans le 9e arrondissement, où vous proposez des douceurs sans sucre mais pas que. Luc Baudin, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi celle qui a investi vos cuisines et régalé vos oreilles pendant 2 ans, celle qui aime autant les grandes bouffes que les petites. Salut Elsa.
Salut Tiana.
Donc bienvenue à tous les trois autour de la table de Radio Campus Paris. Mais avant de parler douceur sucrée, on ne pouvait pas commencer par dire quelques mots de la Coupe du Monde, car ça y est, on est champion du monde. Les Bleus ont leur 2e étoile, ils ont défilé sur les Champs-Élysées, la France est en liesse et Paris est une fête. Et vous, avez-vous regardé le match et étiez-vous dans la rue?
J'ai l'impression qu'on est un peu tous en gueule de bois là, mais c'était que pour moi.
J'ai regardé le match, moi j'ai des souvenirs de foot de tous les grands moments. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai regardé le match, mais je préfère la tranquillité de mon chez-moi à la foule.
Ouais, j'ai regardé le match, je vais être obligé de l'avouer. Ouais, je ne suis pas du tout foot, mais bon, une fois tous les 20 ans, ça passe.
Et moi, pareil. Moi, j'étais dans un petit resto à côté de la boutique et on a tous regardé le foot. Donc, c'était top.
Donc, c'était plutôt petite soirée sympa plutôt que grande.
Oui, oui, non, c'est ce que je dis. C'est le bon rythme, une fois tous les 20 ans, je pense.
Super, on reparlera de foot tout à l'heure avec Elodie, mais pour l'instant revenons à nos moutons, ou plutôt à nos gâteaux, et commençons tout de suite droit au but avec une question toute simple pour remettre un petit peu les choses en place. On parle souvent d'index glycémique, de sucre simple, de sucre complexe, de sucre lent, rapide, naturel, raffiné, de glucides, bref. Quand on parle de sucre, de quoi parle-t-on?
Alors qui répond?
Allez-y, Christophe.
Non, mais alors je peux déjà donner un élément de réponse. Alors, déjà dans le langage courant, quand on parle sucre, souvent on sous-entend sucre de table, c'est-à-dire il y a une définition chimique précise là-dessus, c'est le saccharose. Donc ça correspond à une molécule que les Anglais appellent sucrose aussi, donc c'est un peu ambigu parce que des fois on utilise le mot sucrose, mais le mot officiel en français c'est saccharose, qui est ce qu'on appelle chimiquement un disaccharide, c'est-à-dire une molécule composée elle-même de deux petites molécules, donc deux petits sucres, du glucose d'un côté qui est accroché à un fructose, et ensemble ça donne du saccharose. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle sucre de table, parce que c'est la matière, donc un goût sucré, qui est une des plus faciles à obtenir, puisque il suffit de cultiver les fameuses betteraves sucrières ou les cannes à sucre, et quand on extrait le jus de tout ça, et qu'on, bah justement, bon, après on peut rentrer dans les détails du raffinage, raffinement c'est pour les pâtissiers, et on a donc dans ce jus, on a cette substance justement très abondante, et donc ça fait une substance qui a ce fameux goût sucré et pour pas cher.
Donc ça c'est le sucre blanc, mais quand on parle de sucre, les autres sucres de coco, sirop d'agave, etc., c'est les mêmes, la même molécule?
Non, c'est pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que énormément de fruits, de végétaux, quand on extrait un jus, il y a un goût sucré. Donc c'est-à-dire qu'il y a une substance effectivement dedans qui est sucrée. Souvent il peut y avoir du saccharose, mais il y a souvent beaucoup d'autres choses. Par exemple, dans les fruits, il y a beaucoup de fructose qui a un goût sucré, effectivement, mais moins que le saccharose, mais il a quand même un goût sucré. Dans le sirop d'agave, on a plutôt du glucose tout seul, donc il y a un élément du saccharose mais qui est très différent puisqu'il n'est pas séquestré avec du fructose, il est tout seul, donc c'est du glucose, il est différent mais il a un goût sucré. Dans le miel il y a aussi pas mal de glucose, un peu de fructose, donc tout ça sont des substances dans lesquelles il y a effectivement des molécules qui donnent un goût sucré.
Mais les choses ont évolué, c'est-à-dire moi je me souviens quand j'étais enfant il y a très longtemps, le sucre c'était justement le saccharose et uniquement, puis après on s'est mis à parler effectivement des sucres, on s'est mis à parler des sucres lents, des sucres rapides, des notions un peu nutritionnelles mais qui sont arrivées après, qu'on n'utilisait pas du tout en fait, et je pense que ça c'est assez confusant pour les gens, et justement ils savent plus, parce que quand il y a plein de choses qu'on appelle sans sucre, mais en fait ça veut dire sans saccharose, pas forcément sans sucre au sens de tous les produits sucrants, donc c'est très très, les gens ils mélangent un petit peu tout quoi.
Et par exemple les sucres lents, c'est ce qu'on retrouve dans les pâtes etc, mais est-ce que c'est des saccharoses aussi ou alors rien à voir?
Bon, c'est un peu le même mot mais c'est pas la même chose. Les féculents, enfin dans lesquels il y a de l'amidon, mais après, alors en plus maintenant, enfin c'est encore une ancienne notion, sucre lent, sucre rapide, puisqu'après est arrivée la notion d'index glycémique qui a dit oulala, mais c'est pas du tout comme
voilà,
ça
avec
se passe,
le pain
pas trop
qui serait
c'est
aussi
un sucre rapide, etc. etc. Donc c'est très très.
Donc on mélange plusieurs choses, il y a le goût sucré et.
En fait, tout ça, il y a un truc qui permet de rassembler tout ça, on a affaire à des glucides dans tous les cas, c'est clair. Donc que ce soit sucre lent, rapide, complexe, peu importe la nomenclature, on est dans les glucides, ça, c'est, on n'en sort pas. Et dans ces glucides, grosso modo, effectivement, il y a les petits, donc monosaccharides, disaccharides, donc les glucoses, saccharose dont on a parlé, qui ont ce fameux goût sucré. Et puis les grands qu'on vient de mentionner, comme l'amidon, c'est un glucide aussi, mais il n'a pas de goût sucré. Parce que justement, ce qu'on appelle un polysaccharide, et lui, il va, c'est une grande chaîne de glucose, grosso modo, il est beaucoup trop grand pour être détecté par les papilles en tant que sucre. Et, mais par contre, il va être métabolisé dans l'organisme, et dans ce métabolisme, il va y avoir des briques de glucose qui vont sortir et qui vont faire comme si on avait mangé du glucose. Mais j'insiste sur le comme si, parce que le comme si vient justement de cette différente nomenclature entre ce qu'on appelle sucre complexe ou sucre simple et qu'on appelait avant rapide ou lent, dans le sens que dans le corps, le glucose est plus ou moins relargué, plus ou moins rapidement, pour être exact. Et donc, il y a aussi une composante physique, en fait, qui est très importante dans l'alimentation. C'est que, comme tu disais, avant la nutrition, on l'a pensé surtout en termes de chimie. C'est-à-dire qu'on regardait la liste, qu'est-ce qui est dans mon ingrédient, j'ai ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que, enfin, aujourd'hui, ça fait un petit moment, mais on a mis un peu de temps à se rendre compte que la physique était au moins aussi importante. Et c'est l'exemple que Ariane vient de mentionner sur les pâtes très cuites ou pas très cuites. C'est la même chose quand on mange des pâtes, on se dit c'est des pâtes. Bah oui, mais si elles sont trop plus cuites, leur effet nutritionnel n'est pas le même.
Presque.
Donc, alors que la chimie n'a pas bougé. Hein.
Alors que ça et aussi, je ne sais pas si tu mets ça dans la pique, la façon dont le corps va réagir. C'est-à-dire, on est tous différents et on en aussi. Parlera
ça,
peut-être.
C'est la génétique. Hein,
y a, tout le monde dit, ah là là, surtout pas de sucre le matin, pas de petit déjeuner sucré, le pain, la confiture, c'est horrible. Chez beaucoup de personnes, ça va effectivement avoir une réaction de digestion hyper rapide du sucre, mais il y a des gens qui peuvent manger des tartines de confiture sans problème, ça va aussi dépendre du pain, ça va dépendre de plein de choses. Donc il y a aussi la façon dont le corps interagit avec
l'aliment. Le sucre.
Ouais. Est-ce que le sucre, c'est vraiment... est-ce que c'est mauvais pour la santé? Parce que c'est quand même ce qu'on entend tout le temps en ce moment.
Alors,
est-ce que c'est bon à petite dose?
Alors si on prend le... Enfin, alors le sucre... les sucres simples, disons.
Ouais.
Bah, disons qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que du point de vue physiologique, on n'en a pas absolument besoin. C'est-à-dire, dans l'absolu, on peut vivre sans. C'est-à-dire que si on mange effectivement des pâtes, du riz,
on peut pas avoir des carences de sucre.
On n'a pas besoin du sucre. On n'est pas obligé de manger des bonbons, des gâteaux, du chocolat, etc. On n'en a pas un besoin physiologique. Après, il y a le plaisir. et depuis des siècles, quand même, on est dans des civilisations où ça participe quand même de notre plaisir gustatif, la saveur sucrée. Je dirais que c'est rien n'est mauvais pour la santé en soi. C'est-à-dire que ce qui m'agace souvent, c'est justement quand on est en train de diaboliser le sucre, alors que tout est question de fréquence et de quantité. C'est-à-dire un gâteau de temps en temps ou du chocolat, c'est pas mauvais. Après, il y a deux choses qui peuvent être mauvaises. C'est éventuellement l'excès, c'est-à-dire d'en manger énormément. Et puis l'autre chose dont on va peut-être parler, qu'on appelle tous les sucres cachés, c'est-à-dire le fait que dans les produits industriels, il y a beaucoup de sucre, tout, même dans les plats salés, il y a énormément de sucre. Et puis une troisième chose, qui sont les habitudes alimentaires, on s'est mis à boire beaucoup de soda, enfin, des choses comme ça. Donc c'est pas le sucre en soi qui est mauvais, c'est plutôt nos modes de consommation du sucre.
Et quel est l'effet du sucre sur notre santé, sur notre organisme concrètement? Il se passe quoi quand on mange du sucre? Christophe, peut-être que vous pouvez répondre à cette question.
Oui, vas-y.
Tout dépend dans quoi on mange. Bah, effectivement, on va avoir une hausse de la glycémie dans notre sang. C'est ce que je disais, typiquement, si on mange le matin, la plupart des personnes, si elles mangent le matin soit une tartine avec de la confiture ou des céréales très raffinées qui fonctionnent aussi comme un sucre rapide, il y a une hausse très rapide du sucre dans le sang, de la glycémie, avec très souvent un effet contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire typiquement, on a un coup de barre à 10h30, 11h du matin, et le problème, c'est que et du coup, on va remanger quelque chose, et si on a tout le temps ces hausses, ces baisses de glycémie, ça fatigue l'organisme, et ça peut après avoir un effet sur l'insuline, etc. Donc, c'est pas quelque chose d'hyper sain, quand même d'avoir ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même manger un gâteau, manger de la confiture, etc. Mais si on mange beaucoup de choses sucrées, ça peut quand même avoir un effet à long terme sur la santé.
Typiquement, le diabète.
C'est le grignotage, je pense.
qu'il faut éviter. Oui, l'énergie sucrée, effectivement, on parle beaucoup du diabète aujourd'hui, c'est typiquement un effet à long terme. Il est clair qu'un effet à court terme que tu viens de mentionner, c'est qu'on peut avoir ce pic d'énergie suivi d'une chute d'énergie qui est contre l'effet voulu, mais évidemment, après, on peut déclencher des pathologies à long terme. Ce qui est important, c'est encore une fois de retenir au-delà de la. Il y a bien sûr la quantité qui est importante, mais dans cette histoire d'index glycémique, c'est surtout, encore une fois, la réponse de l'organisme qui, comme Ariane l'a dit, est individuelle, mais en même temps correspond aussi, comme on l'a mentionné, avec des caractères physiques de l'aliment. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'à une quantité de sucre donnée, suivant l'état, là je parle vraiment de sucre simple, hein, suivant l'état dans lequel sont, entre guillemets, séquestrés ces sucres dans la matière que l'on mange, on va avoir une réponse, non seulement une réponse glycémique immédiate qui va être différente, mais aussi en termes de consommation à long terme, des pathologies qui vont être différentes. Un exemple très concret, il y avait une étude qui avait fait pas mal de bruit là-dessus, qui avait comparé ce qui se passait quand on mangeait des pommes, quand on buvait du jus de pomme filtré, ou quand on buvait des smoothies, qui sont un peu l'équivalent d'un jus non filtré. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a en fait la même chose. Quand on mixe une pomme, on a un smoothie, on a l'impression de manger la pomme, puisqu'on l'a mixée, on a toute la pomme qu'on boit, au lieu de la manger, quoi. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, évidemment, à court terme, on peut se rendre compte que la réponse glycémique est très différente. Alors qu'encore une fois, j'insiste, chimiquement, on mange la même chose. C'est-à-dire que si je mixe ma pomme et que je la bois, je mange les mêmes molécules que si je la croque. Mais je les mange pas dans le même état physique. Et comme je les mange pas dans le même état physique, mon corps met plus ou moins de temps à récupérer les nutriments qu'il y a dedans. Donc c'est l'exemple où effectivement si je bois ma pomme, j'ai une réponse glycémique assez rapide, si je la mange, j'ai une réponse glycémique beaucoup plus lente, alors que j'ai ingéré la même quantité de sucre. Et donc ça, eh ben, c'est directement mesurable, et je parle pas évidemment du jus raffiné où là c'est une catastrophe, parce que là le jus de pomme c'est 18 grammes ou 180 grammes par litre, pardon, de sucre. Donc là on a un pic extrêmement violent et on sait que ça augmente le diabète. Hein.
On reviendra là-dessus tout à l'heure parce que l'heure tourne et c'est le temps de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
My girl loves cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.
Cheesecake.
My girl, she's crazy over cheesecake all the time. So I bring her cheesecake, and she treats me mighty fine. Da-da-da-da-da, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Ba-da-ba-da, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Chante le cheesecake et nous on parle pâtisserie jusqu'à 20h, mais avant de reprendre notre discussion gourmande, je crois qu'Élodie a deux mots à nous dire, ou plutôt à nous chanter sur la Coupe du Monde.
Ils sont français, ils sont français.
Ils sont français. J'avais envie de voir le match hier, quand les supporters ont débarqué dans mon quartier à 11h du matin et ont pété la vitre du bar en bas de chez moi à 14h, j'avais nettement moins envie. L'ambiance absurde de la finale, on l'a vécue dans les rues de Paris. Le premier but contre son camp de l'histoire des finales de Coupe du Monde a été inscrit par le Croate Mandzukic.
Kitsch.
Je crois que c'est kitsch, on dit comme ça. J'aime le foot, j'aime le spectacle. En regardant autour de moi, j'ai aussi eu l'impression qu'on jouait contre notre camp hier. Tu as besoin d'un match pour être fier de vivre dans une nation composée de gens différents de toi. Ils sont français, ils sont français, ils sont français. La liesse populaire, on se fait la gueule les deux tiers du temps et là, tout à coup, vous vous trouvez tous ensemble un sens à votre bonheur? Vous achetez des écrans plats à 700 balles pour mater des films et des matchs tranquilles peinards chez vous, et là, tout d'un coup, c'est un grand moment de partage. Au deuxième but croate, en fin de mi-temps, les mecs se sont transformés en guerriers. Un peu plus tard, dans les rues qui mènent aux Champs-Élysées, il y a eu un mort. Accident de scooter, les pompiers n'ont rien pu faire. Ironie du sort, ils voulaient rejoindre les Champs-Élysées où partent se reposer les âmes. Vous jalousez le pognon des joueurs de foot. Vous vous en battez les couilles de la situation politique en Russie. Et dans le fond, vous trouvez quand même qu'il y a un peu trop de noirs et d'arabes et que l'immigration, c'est pas possible, qu'on peut pas porter tous les problèmes de la planète. Ça vous arrive de prendre du temps pour rêver en dehors du foot. Ils sont français, ils sont français, ils sont français. Il faut vraiment être un esprit chagrin pour être triste aujourd'hui, écrit André Markovitch, traducteur et auteur, parfait connaisseur de la Russie. Moi aussi, cher André, je suis esprit chagrin. Mes championnes à moi, ce sont les poussiriotes qui lâchent rien. J'espère qu'elles sont en sécurité. Le ciel de Paris a offert un de ses plus beaux couchers de soleil hier soir, c'était tout doré. Mes champions à moi, ce sont les éboueurs qui étaient là à 6h du mat et jusqu'à 8h30 pour ramasser les ordures. On est les champions, oui. Cet enthousiasme-là, s'il vous plaît, gardez-le longtemps. Ce serait la moindre des politesses d'être au moins la moitié aussi joyeux quand vous devez rendre un service à quelqu'un. On est aussi toujours le perdant de quelqu'un. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de gagner pour s'aimer ?
Merci Élodie d'avoir bravé la gueule de bois de la France pour cette chronique sans queue ni tête. Et nous, on en revient à la pâtisserie, un sujet assez gourmand, on va dire. Et on a beaucoup parlé de sucre. Et j'avais envie de repartir en parlant des édulcorants. Quid des édulcorants ? Et là, je vais peut-être me tourner vers Luc.
Oui. Oui, déjà, je voulais revenir sur le fait que je ne fais pas de la pâtisserie sans sucre.
D'accord, vous faites de la
pâtisserie. Je désucre un maximum.
La pâtisserie désucrée.
Ouais, et j'essaie d'utiliser des sucres en complément, et le plus souvent des sucres naturels.
Vous n'utilisez pas d'édulcorants ?
J'utilise. Alors, quand il s'agit vraiment de faire une pâtisserie pour diabétiques, je compense le sucre non raffiné, de préférence, avec du maltitol, du sucre de maïs, du xylitol pour tout ce qui est ganache, parce que le xylitol a quand même un goût très frais. C'est le sucre de bouleau. Mais après, j'y vais dans des proportions très restreintes. J'essaie vraiment de désucrer un maximum, je garde du sucre blanc, enfin du sucre non raffiné, donc du sucre légèrement roux, et je compense avec soit ce maltitol, soit le xylitol, le sucre de coco beaucoup, pour des pralinés, des choses comme ça. Mais on va dire qu'il n'y a aucun sucre qui peut remplacer toutes les caractéristiques du saccharose, qui caramélise, qui...
Voilà. D'ailleurs, je reviens sur ce que vous dites. Le sucre, à quoi sert-il dans la pâtisserie ? Est-ce qu'il a une...
Il est très important.
Voilà.
C'est un conservateur. Déjà, donc, on va dire qu'on ne peut pas remplacer un sucre par n'importe quel sucre, parce que le saccharose est un très bon conservateur. Certains sucres sont très hygroscopiques, alors que le saccharose, il l'est, mais beaucoup moins que par exemple le sucre de coco, que le... quel autre sucre je peux vous dire ? Enfin, il y en a plein.
C'était quoi le mot que vous avez utilisé ?
Hygroscopique, qui absorbe l'eau. C'est-à-dire, d'accord, quand vous faites un caramel avec un sucre de coco, au bout d'une demi-heure, il va être poisseux, vous allez avoir une pellicule d'humidité dessus, alors que le saccharose, ça va être un peu plus long, beaucoup plus long même. Et il caramélise. Le saccharose caramélise, alors que les autres sucres, très peu de sucre caramélise. Le maltitol, vous n'aurez pas ce goût caramel, il va durcir, mais vous n'aurez pas le goût caramel. Le xylitol, moi je suis jamais arrivé à le caraméliser vraiment, parce qu'il est pareil, il capte l'humidité et on n'obtient pas de caramel. Enfin, voilà.
Pourquoi vous avez voulu désucrer votre pâtisserie et utiliser moins de saccharose si il fonctionne si bien ?
En fait, c'est parce qu'il y a 4 ans, j'étais prof pour un élève qui avait une cinquantaine d'années, qui est en reconversion diabétique et qui m'a proposé de m'associer avec lui pour faire une pâtisserie moins sucrée qui convienne aux diabétiques, donc avec des indices glycémiques plus bas. Et on a travaillé sur le fait de mettre moins de sucre, mais surtout sur les sucres cachés, c'est-à-dire oublier les farines blanches, utiliser plus de fibres, parce qu'il m'a toujours dit que manger une pâtisserie après avoir mangé des brocolis ou des haricots, c'était faisable pour une personne diabétique. Donc on a joué avec des farines de meule, avec des farines de pois chiches, de lentilles, enfin voilà.
Et vous avez gardé ça dans votre pratique quotidienne aujourd'hui ?
On va dire que là, en ce moment, je donne des cours un peu partout dans le monde sur la pâtisserie moins sucrée, donc où je joue avec les farines, avec les sucres, et avec aussi les matières grasses, c'est-à-dire utiliser moins de beurre, utiliser plus d'huile naturelle.
Et est-ce qu'on peut parler de pâtisserie light ?
Ouais, c'est ça. Enfin, moi... J'ai pas voulu être dans l'excès parce qu'il y en a plein qui enlèvent le sucre. Donc ils mettent du maltitol à 100% à la place du sucre et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Voilà.
Et quel est l'intérêt pour des personnes qui ne sont pas diabétiques? C'est des personnes qui font attention à leur ligne ou qui font attention à leur santé?
Je sais que chez Eugène et dans beaucoup de pâtisseries qui font des pâtisseries à la base pour diabétiques, 80% des clients c'est des sportifs, c'est des familles, parce qu'en fait c'est des produits qui ont quand même, on arrive à leur donner du goût, ils sont bons, on a le goût du fruit, on joue avec les fruits de saison, donc on essaye de mettre en avant le fruit ou les produits avant de compenser complètement avec du sucre qui va cacher complètement
mais
le
là,
goût.
Mais là, justement, je vais me tourner vers Ariane. Sur ce côté, c'est les sportifs qui viennent là, les gens qui font attention à leur santé. Est-ce qu'il y a un intérêt nutritionnel à remplacer le sucre par un maltitol ou par un substitut finalement?
Alors, si on n'a pas de problème de santé, non, je crois pas. Puis, il y a quelque chose qui me paraît de l'ordre des habitudes de consommation. C'est-à-dire que, vous disiez, les pâtissiers, c'est des stars. On voit beaucoup de pâtisseries fleurir à Paris. Mais pour moi, manger un gâteau, c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Donc, du coup, le jour où on le mange, qu'il soit riche en beurre, en sucre, etc., me paraît pas un problème. C'est-à-dire après, le problème, c'est plus les personnes qui vont avoir, alors je ne pense pas à l'addiction, mais qui vont avoir des habitudes de manger tout très sucré, qui vont manger beaucoup de biscuits, de choses industrielles, etc. Donc le fait d'aller choisir un gâteau dans une pâtisserie, après, je pense que c'est très intéressant d'expérimenter d'autres choses et de pouvoir offrir une palette de choix et de savoir travailler tous les sucres, ça me paraît vraiment intéressant. Après, il ne faut pas s'empêcher de manger un gâteau avec du, entre guillemets, vrai sucre.
Après, c'est vrai que en tant que pâtissier, dès l'apprentissage, on nous apprend à travailler avec certains pourcentages de sucre très élevés, avec du glucose. Donc en fait, on nous dit d'utiliser du glucose pour telle recette. On appelle ça aussi de la trimoline, du sucre inverti. On ne donne même pas le nom de sucre inverti, on donne la marque directement dès l'apprentissage dans les recettes. Et c'est assez aberrant. Et c'est ça, moi, je pense qu'il faut retravailler dès l'apprentissage. C'est des recettes moins sucrées, s'adapter. Parce qu'au final, on a tellement sucré, les pâtissiers ont tellement sucré il y a 10-20 ans, qu'on en arrive avec des
ça
produits
qui sont vraiment... certaine facilité, malheureusement, effectivement, parce que comme le goût sucré plaît, et puis c'est moins cher, c'est plus facile de trop sucré que de moins sucré. Moins sucré, on va prendre un risque au niveau texture de l'aliment, à côté des propriétés du sucre, et puis prendre un risque du fait des consommateurs qui vont dire bah, elle n'est pas assez sucrée, ton gâteau, je vais aller ailleurs. Donc c'est
et
vrai.
Au niveau de la conservation aussi, ce que vous disiez.
Et puis un produit très sucré, il se conserve très bien, et la matière première la moins chère pour un pâtissier, c'est le sucre.
Mais est-ce que gustativement, vous trouvez aussi un intérêt à utiliser d'autres formes de sucre? C'est plus intéressant pour le goût aussi?
Nous, les retours qu'on a, c'est déjà, on retrouve le goût des produits, le goût des épices, des fruits, même les pâtes sablées, utiliser une pâte sablée avec de la noisette, faire un peu plus torréfier la noisette pour qu'on ait vraiment ce goût de noisette plutôt que le sucre. Enfin voilà, c'est plein de petites choses.
Et quid de la stevia, qui est naturelle et qui...
Moi, je l'utilise un tout petit peu au début, et en fait, la stevia, étant donné que c'est de la poudre, on perd une matière sèche dans le produit, donc en fait on n'arrive pas à avoir la même texture, on perd complètement la conservation. Vous faites un scones à base de stevia, c'est ce que j'avais essayé de faire, au bout de 3 heures il est complètement béton, vous pouvez plus le manger. Enfin voilà, franchement non, je suis pas...
Et au niveau du goût, ça, c'est pas convaincant?
Non, c'est pas convaincant. Après, je pense qu'on pourrait l'utiliser pour des boissons. Pour des boissons, je pense que là, ça peut être intéressant.
Alors, c'est déjà beaucoup utilisé hein, pour les boissons, effectivement, parce que la stevia, donc pour faire un peu de chimie, c'est un ribodioxyde, donc c'est dans la famille des glucides aussi, naturel, comme on l'a mentionné, mais très très sucré, hein, 300-400 fois plus sucrant que le sucre à quantité égale. Mais il y a clairement un arrière-goût de réglisse que à peu près tout le monde mentionne quand c'est utilisé en quantité importante. Donc, c'est très difficile d'utiliser. Il y a eu quelques essais de lancement, il y a eu le yaourt à la stevia, mais il a vraiment un arrière-goût réglisse très marquée, donc c'est pas un franc succès. Par contre, voilà, c'est vrai que ça a bénéficié de ce statut d'édulcorant naturel, hein, puisque c'est naturel et que les gens y veulent du naturel pour des fausses et des bonnes raisons. Donc, d'ailleurs, un propos naturel, je pense que c'est important de mentionner aussi à toutes les molécules qui ont été mentionnées par Luc. On parle de effectivement, maltitol, xylitol, sorbitol. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des trucs chimiques. Voilà. Xylitol, sorbitol, maltitol, qu'est-ce que c'est? C'est des polyols, exactement. Ce sont des polyols qui sont complètement naturels.
D'accord.
Donc, ça appartient à la famille des glucides aussi, hein. Les polyols, c'est des glucides qui ont un groupement alcool, donc ol.
Et ça vient d'où?
Et ça, enfin, c'est alors, le xylitol du boulot, comme c'était mentionné, d'accord. Le sorbitol, il y en a dans le pruneau, le maltitol dans le maïs. Donc, tout ça, c'est des molécules qu'on trouve naturellement, qui ont ce petit ol, parce que chimiquement, voilà, ils ont un groupement alcool.
Et comment on reconnaît ça? Par contre, parce qu'on parlait de la santé, qui peuvent, chez un certain nombre de personnes, poser des problèmes digestifs.
Oui, quand c'est en trop grosse proportion, effectivement, peuvent poser problème.
Moi, je crois que par rapport à cette histoire de goût sucré, je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler sur l'éducation au goût en amont, c'est-à-dire pas prendre l'habitude d'avoir un repère de goût très sucré et s'habituer effectivement au vrai goût des aliments, des fruits, etc. Mais si on s'habitue effectivement à une alimentation qui est très sucrée, effectivement, toute l'alimentation industrielle où il y a quand même souvent un petit peu de sucre, on habitue son palais à ça et après, du coup, c'est un gros effort pour redescendre en niveau de sucre.
Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, ce qui est l'aberration du sucre, on mentionnait tout à l'heure l'histoire sur la santé, en fait, l'aberration, c'est le sucre caché. Parce que puisque le sucre est censé être un plaisir, c'est totalement absurde de manger du sucre sans s'en rendre compte. Parce que du coup, le plaisir n'existe pas. Donc, c'est là où c'est dommageable, c'est là. Quoi. C'est quand on se rend compte qu'on dans un régime dans lequel on mange beaucoup de sucre, alors qu'on n'en est même pas conscient. Donc, c'est vraiment tout gâché. C'est pas bon pour la santé, on n'y prend même pas plaisir.
Il est 19h30, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today.
No Milk Today, mais de la gourmandise ce soir sur Radio Campus Paris.
En fait, les 20 ans du sacre de la Coupe de l'équipe de France en football, c'est à peu près la même chose dans la pâtisserie. On a eu une évolution terrible grâce à Gaston Lenôtre, grâce à Pierre Armé et Philippe Conticini dans les années 70-90, on va dire. Et à l'aube des années 2000, eh bien, une nouvelle génération a un peu écrémé tout ça et un peu développé, désacralisé une pâtisserie plus rock'n'roll, plus ludique, moins grasse, moins sucrée. Et je pense que c'est vraiment vers 98-2000 où voilà, ça s'est un peu accéléré. Et maintenant, la nouvelle génération a cette chance justement de surfer sur ça et que voilà, la pâtisserie est devenue à la mode entre guillemets. On n'enlève pas tout le gras, on n'enlève pas tout le sucre, on mange raisonnablement. Il y a un truc que vous pouvez retrouver sur Facebook, c'est une recette de crêpes. Et à l'époque, il fait une recette, je crois qu'il y a 5 litres, donc imaginez 5 litres d'appareil à crêpes pour à peu près 8 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 20 crêpes par personne. Vous voyez, déjà on ne mangeait pas pareil dans les années 50. Raymond Oliver vide une bouteille, si je m'abuse, de pastis, de bière et de rhum. Donc voilà, la cuisine et la pâtisserie qu'on mangeait dans les années 60 n'est plus du tout la même que maintenant. Une crème anglaise à l'époque, lorsque j'ai commencé mon apprentissage, on avait 300 grammes de sucre. Maintenant, on arrive à descendre à 80 grammes de sucre. Donc la pâtisserie n'est pas un péché, surtout maintenant avec ce respect de notre alimentation, de faire attention à ce qu'on mange. La pâtisserie d'aujourd'hui est beaucoup plus saine qu'il y a 30 ou 40 ans.
On vient d'entendre Christophe Michalak nous parler du désucrage de la pâtisserie. Et c'est vrai que si l'on ouvre un livre de cuisine des années 50, on n'est plus du tout sur les mêmes proportions. Et chez les artisans, cette tendance du désucrage semble de plus en plus unanime. Elsa, tu avais une petite question?
Oui, parce qu'on parlait juste avant, avant la pause musicale, des sucres cachés. Donc j'avais envie de demander à Christophe qu'est-ce que c'est que ces sucres cachés. Parce que si j'ai bien compris, enfin, en tout cas, voilà, la pâtisserie, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Et ce dont on doit faire attention, c'est les sucres cachés et la nourriture industrielle.
Ouais, c'est pas vraiment, enfin, rien, tu pourras rebondir, c'est pas vraiment une question de grave ou pas grave. C'est que ce que je disais, ouais. C'est que sucre caché, je sais pas si c'est une définition officielle, mais c'est l'idée de manger quelque chose dans lequel on ne se rend pas compte qu'il y a du sucre. Typiquement, on va manger un cassoulet qu'on va acheter tout préparé, et puis en mangeant un cassoulet, bon, ben voilà, on ne se rend absolument pas compte que l'industriel qui a préparé ce cassoulet a rajouté du sucre parce que c'est flatteur, parce que ça permet effectivement peut-être une meilleure conservation, pour tout un tas de raisons. Le fait est qu'on va manger du sucre alors qu'on n'avait pas prévu de le faire, et donc c'est ça qu'on appelle les sucres cachés. Donc c'est là où je disais que je trouve ça un peu dommage d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de raison de manger des sucres cachés, il n'y a pas de raison valable. Si le sucre est censé être une gourmandise, alors ne le mangeons que quand il s'agit de gourmandise et de gourmandise sucrée, parce qu'une gourmandise salée, ça me va très bien
en
aussi.
En fait, c'est pas tant du mauvais sucre, c'est juste qu'on en mange sans le savoir.
Mais du coup, on va en manger beaucoup.
Si on a une nourriture très industrielle, il va y avoir quand même une quantité importante qui vient peut-être s'ajouter à des pâtisseries, des gâteaux, donc ça peut faire une certaine quantité. Et puis, c'est ce que je dis, du coup, on s'habitue aussi à une espèce de goût doux. Et du coup, on va vouloir de plus en plus manger des choses un peu douces, un peu sucrées.
Alors, ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que la plus grosse consommation de sucre chez les gens qui sont considérés comme un problème, c'est-à-dire qui mangent objectivement trop de sucre et qui sont sujets à d'obésité, au diabète ou choses comme ça, je crois que c'est environ la moitié qui vient des sodas pour ces gens-là. Donc, ça veut dire qu'on est loin de la gourmandise d'une certaine manière. C'est plus le réflexe, j'ai soif, je bois une canette de soda ou un verre de jus de fruits. D'ailleurs, je ne suis pas du tout en train de faire une dichotomie soda versus jus de fruits bio, naturel, etc. Il y a la même quantité de sucre, c'est pas ça le problème.
Dans un verre de coca et mon verre de jus de pomme bio, mon verger d'à côté,
production locale, etc., tout ce que je veux mettre comme étiquette green label dessus, c'est le même problème, il y a la même quantité de sucre.
Mais à ce niveau-là, les soda light, c'est aussi un petit peu un piège, parce que du coup, on garde ce goût sucré.
Alors non, c'est un piège. Soda light, pour le coup, objectivement, il n'y a plus de sucre. Enfin, les très light, il y a différents degrés de light. Il y a le fameux sans sucre total, ou juste un peu de sucre, ou juste du coup, bref. Mais non, quand on boit un soda light, effectivement, on ne boit pas de sucre. Alors après, il y a d'autres études qui vont nous dire que les édulcorants utilisés posent un autre problème.
Oui, je crois que ça dépend un peu de ce qu'on veut donner à son corps et lui donner beaucoup d'édulcorants. Il y a des gens qui boivent énormément de soda light. Je ne suis pas sûre que ce soit génial. Moi, quand je vois des gens, j'essaie plutôt effectivement de travailler sur le fait qu'ils se déshabituent du goût du sucre. Et je vois bien que j'ai des patientes qui préfèrent de temps en temps boire un vrai soda plutôt que de boire des litres et des litres de soda light, qu'elles boivent pour s'empêcher de manger autre chose de sucré.
Comment on fait pour reconnaître quand on n'y connaît pas grand-chose et quand on lit une étiquette? Est-ce qu'il y a des choses dont on doit se méfier? Comment on fait pour reconnaître un bon sucre d'un mauvais sucre? Des bons additifs, de mauvais additifs?
Alors, je crois que quand on lit une étiquette, ce qui est important, c'est qu'il y ait le moins d'ingrédients possible, que ce soit le plus près de quelque chose que vous auriez fabriqué vous. Par rapport au sucre, il y a quelque chose qui est important, qui est déjà qu'il ne soit pas en premier. C'est-à-dire, si vous achetez des biscuits ou quelque chose, ce qui est en premier, c'est l'ingrédient le plus important. Donc, si vous avez, normalement, quand vous mangez des biscuits, ça devrait être la farine qui soit en premier, si c'est le sucre. Ou une pâte à tartiner, etc. Ça veut dire que c'est quand même très très sucré, c'est la première chose. Et puis, si possible, plutôt éviter le sirop de glucose fructose, enfin tous les sucres très compliqués, plutôt prendre quelque chose où il y a du sucre simple.
Donc le plus simple en base, c'est si je comprends ce qui est écrit sur l'étiquette, ça veut dire qu'a priori, c'est bon. C'est...
Exactement.
Enfin, si je comprends,
oui,
quand on n'est vraiment pas scientifique, je veux dire, c'est écrit farine, sucre, beurre. Après,
on peut dire ça. Je ne suis pas complètement convaincu par ça.
Je voulais revenir aussi à quelque chose. En pâtisserie, à l'époque, on nous apprenait aussi à désucrer le goût en mettant du glucose. Parce que le glucose a un pouvoir sucrant plus faible que le sucre.
Ouais.
Et pourtant, le glucose est plus dangereux que du saccharose. Quoi.
Et jusqu'où peut-on désucrer la pâtisserie?
Bah, et on faisait ça dans quel but?
Le glucose, c'est un anticristallisant.
Une question de coût aussi ou...
C'est pour une question de coût. Et déjà, ouais, c'est un anticristallisant, donc c'est hyper intéressant en pâtisserie. Ça évite les cristaux de sucre et tout ça.
C'est presque obligatoire en glace. Hein. C'est très difficile.
En glace, c'est très difficile de faire une glace sans glucose. Ouais.
Et du coup, je reviens à ma question. Oui. Jusqu'où on peut descendre le sucre? Est-ce qu'on peut vraiment...
Bon, ça dépend des recettes. Après, il y a des recettes où on peut en enlever 70% et on gardera une texture correcte. Et d'autres où on est obligé d'en garder une certaine proportion, comme les pâtes sablées, les choses comme ça, pour avoir une pâte un peu friable.
Et,
bah, la meringue, moi actuellement, je fais une meringue à la mutinerie. On a des produits très peu sucrés et on a des meringues. Mais une meringue, elle restera sucrée. J'ai réussi à enlever pas 1 kg de sucre, j'ai réussi à enlever quasiment 100 grammes. Mais c'est rien. Il reste les 900 grammes de sucre restant. Donc au lieu de mettre 1 kg, j'en mets 900.
C'est-à-dire que tout dépend en fait, effectivement, au niveau du goût, on peut faire ce qu'on veut. Mais après, tout dépend de des propriétés physiques que le sucre procure. On prend l'exemple de la meringue. Il est évident que quand on fouette des blancs et qu'on met du sucre dedans, en fait, le but du jeu, c'est que la meringue puisse cuire avant que le système s'effondre. Or, plus il y a de sucre dans un blanc d'œuf, plus il tient longtemps avant cuisson. Donc si on essaye de faire une meringue allégée en se disant normalement, une meringue à la française, c'est grosso modo deux fois le poids du sucre par rapport au poids du blanc d'œuf. Si je m'amuse en disant, je vais faire une meringue deux fois moins sucrée, je mets juste 1 kg de sucre pour 1 kg de blanc. Le temps que je couche ma meringue sur ma plaque, que je la mette au four, elle va commencer à s'effondrer et ça fera des meringues toutes plates, toutes collantes, complètement non présentables. Donc là, j'ai un écueil physique. Je veux dire, ça tient pas parce que je manque de sucre. Du coup, on peut résoudre la question ou le problème en ajoutant dans l'appareil à meringue quelque chose qui va faire tenir la meringue à la place du sucre. Et c'est ce que font typiquement les gens avec du xanthane. Xanthane, c'est un épaississant naturel. Cet épaississant, si on le rajoute dans l'appareil à meringue, il va donner de la viscosité à la place du sucre. Et du coup, en mettant moins de sucre, on aura quand même quelque chose qui tiendra. Et donc, on pourra effectivement faire une meringue moins sucrée, voire même une meringue salée si on veut enlever tout le sucre et mettre plein de xanthane et puis mettre.
Et c'est un additif, l'axanthane ?
Oui, c'est un additif parce qu'il a
naturel.
Un nom de code. Naturel, c'est un produit de fermentation. Donc, en fait, on fait fermenter des bactéries xanthophiles qui sécrètent un polysaccharide qui est une formule proche de l'amidon, en fait. Hein, ça donne de l'épaisseur. Donc, c'est naturel, dans le sens, c'est fait par une fermentation bactérienne. Après, c'est fabriqué. Enfin, c'est fabriqué avec un processus de réaction de fermentation.
Après, il y a aussi une question de qualité des ingrédients. Si on prend toutes les pâtisseries où il y a des fruits, si on a de bons fruits, on a vraiment besoin de très peu sucré. Et des fois, le sucre, c'est plutôt un cache-misère. Hein. C'est parce qu'on va avoir des fruits qui sont pas assez mûrs ou pas de qualité. Et du coup, on va essayer de sucrer pour renforcer le goût. Mais c'est pas vraiment la solution.
On va mettre du glaçage. Il
y a des tas de préparations avec lesquelles le sucre n'a il n'est là que pour le goût sucré. J'ai fait une crème anglaise, je peux la faire avec zéro sucre. Ça fera une crème anglaise au niveau de texture, ça marche très bien.
Mais au niveau du goût, ce sera quand même.
Au niveau du goût, ça sera bizarre. Pas une crème anglaise non sucrée, ça sera très bizarre. Ou si je fais une chantilly, le sucre n'apporte rien. La chantilly sans sucre, ça marche très bien. Mais ça.
Oui,
c'est pas une chantilly, c'est une crème montée. Quoi.
Oui, c'est
mais,
ça. Parce que
ça marche.
Dans la pâtisserie, quand même, il y a un goût sucré. Enfin,
oui,
sinon,
bien sûr.
On parle plus de pâtisserie.
La pâtisserie, la base, quand même, c'est le sucre.
Oui.
C'est le sucre. Mais on peut diminuer dans des grosses proportions, on va dire. Mais jusqu'à... Enfin, voilà, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, quoi.
Et par exemple, les épices, je vous avais entendu il y a quelques années dire que vous utilisez des épices pour tromper le palais, pour qu'il soit qu'il soit moins porté sur le sucre.
Oui. Étant donné qu'on désucre quand même dans des fortes quantités... nous, ce qu'on faisait, c'est on a un super producteur d'épices qui nous fournit des épices vraiment de qualité. Là, vous aurez des petits bonbons, vous goûterez des petits bonbons au chocolat. Et ça permet de. On sent ce goût d'épices et ça permet d'atténuer le manque de sucre, quoi, tout simplement.
Peut-être que vous pouvez nous présenter ce que vous avez apporté là, parce que vous avez quand même une belle boîte avec des beaux gâteaux dedans. On n'a pas encore parlé.
C'est pas forcément des produits.
Mais vous êtes d'accord que vous laissez quand même du sucre, par exemple dans le chocolat. Moi, je trouve que des gens qui mangent du chocolat à 99% de cacao. C'est quand même une punition, quoi.
Ah oui, moi je suis complètement, pas contre ça, mais je comprends pas les gens qui achètent ça, étant donné que, c'est déjà hyper âpre et amer. Donc nous, on a décidé la 100%, on rajoute 15% de sucre de coco. Donc on a gardé les cristaux de sucre, donc elle est non conchée parce qu'on n'a pas de concheuse à la boutique. Et on a ce petit goût sucré en fin de bouche qui est hyper agréable.
Qu'est-ce qu'une concheuse ?
On va dire qu'un chocolat, pour le faire, il faut le concher. C'est-à-dire on a des palettes ou des petites billes, tout dépend les industriels qui le font, qui vient mélanger la masse de cacao avec le sucre jusqu'à ce que le sucre fonde. Et soit, après, ils choisissent les microns, la finesse du chocolat. Ils peuvent laisser des grains comme le rendre très très fin. Voilà. Et nous, là, ce chocolat-là, il a encore les grains de sucre de coco.
D'accord. Alors là, qu'est-ce que vous avez apporté ?
Et d'ailleurs, elle est ici. Et celle-ci, elle convient pour les diabétiques.
D'accord.
Alors ça, c'est une plaquette
c'est une
de chocolat.
Tablette de chocolat, oui.
Celle-ci, c'est la tablette de chocolat. C'est une 85%. C'est de la masse de cacao qu'on reçoit équateur et que je viens mélanger avec... avec du sucre de coco. Et on essaye de... Ouais, on mise beaucoup sur l'esthétique avec un minimum de packaging. On voulait pas de... plastique, cartonnage, machin. Enfin là, on voulait vraiment le minimum.
Et là, dans la petite boîte que vous avez entre les mains,
qui
est une boîte carrée.
Ça va, j'ai pas fondu, j'avais peur. Donc là, c'est nos petits bonbons chocolat avec des épices. Celle-ci, c'est une cannelle d'Iduki. Tout est en colorant naturel aussi. On a vraiment voulu le faire le truc à fond. Praliné graines de courge. C'est un praliné 75%, donc c'est un praliné très peu sucré. 75% de fruits secs. On a un praliné sarrasin, pareil. On a une ganache équateur au sucre de bouleau, xylitol et poivre cubeb, c'est un petit poivre un peu fumé. On a un bonbon zatar, donc pareil, on joue avec le zatar, c'est de l'origan sauvage d'Israël, et un tout petit peu de yuzu, donc vous verrez, c'est une ganache très peu sucrée mais qui a un super goût, et un paléor au miel de châtaignier. Voilà, donc il est le seul conservateur, c'est le miel pour celui-ci.
Bon, ouais. Ben on va goûter tout ça, et pendant ce temps-là, on va faire une petite pause musicale.
Je suis désolé.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et on mange du chocolat en vrai et avec Olivia Ruiz. On est toujours avec Ariane Grumbach, Christophe Lavelle et Luc Baudin.
votre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je vais m'attendre, petite sœur.
Alors, on a parlé beaucoup de pâtisserie, d'artisans, de pâtissiers, de manière de faire. Je voulais parler de la pâtisserie qu'on fait chez soi et avoir quelques conseils pour faire une pâtisserie peut-être un peu moins sucrée.
Je crois que c'est très important d'expérimenter, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est que la pâtisserie avait quand même du sucre. Hein, on ne fait pas du pain ou quelque chose comme ça, on fait des gâteaux. En revanche, il ne faut pas hésiter par rapport à des recettes qu'on trouve de petit à petit diminuer la quantité de sucre pour voir à quel moment on a le bon équilibre entre pas trop de sucre mais une satisfaction gustative. Ça, c'est une chose du point de vue de la quantité. Et après, comme on a, selon ce qu'on cherche à faire comme gâteau, on peut aussi diversifier les sucres qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on peut soit utiliser du sucre complet, on peut utiliser du miel, on peut... Après, il y a un aspect financier qui peut entrer en ligne de compte aussi, parce qu'il y a des sucres plus chers que d'autres. Mais c'est intéressant d'essayer de varier les types de sucres, parce qu'on va vraiment avoir des résultats différents. Et on peut essayer de voir qu'est-ce qui convient, convient au palais. Par exemple, si on met du miel, ça va souvent être un peu plus sucrant. On va peut-être en mettre moins. Ça va peut-être garder le gâteau plus moelleux. Mais c'est très important, justement, de tester, de se donner de la souplesse. Et on peut aussi jouer, comme lui disait Luc, sur les farines aussi. Pas forcément prendre de la farine blanche, prendre des farines... pas forcément complète, mais semi-complète.
Là, on a des petits gâteaux, justement. Vous parliez de farine arienne. Quelle farine vous avez utilisée?
Alors là, les cakes, c'est pas forcément basé sur le diabète. Ils sont moins sucrés. C'est une farine de meule T80.
D'accord.
C'est ma farine de base. J'utilise
vous
pas de farine.
Vous pouvez rappeler un petit peu T80, qu'est-ce que c'est?
C'est le type de farine, c'est le taux de cendre. En fait, plus le taux de cendre, comment expliquer? Une farine blanche. On va la passer au four, alors je ne sais plus exactement les degrés, mais à très forte température, et il va rester un certain taux de cendre. Et plus la farine sera riche en enveloppe, plus on va avoir de cendre à la fin. Voilà.
Et plus la farine est complète, plus elle a un thé élevé. Quoi.
Exactement.
Et ça se trouve partout. Et plus elle a de nutriments, puisque la farine blanche, finalement, on va avoir très très peu de nutriments qui vont rester. Ça ne veut pas dire qu'il faut... plus en consommer, mais on peut changer ses habitudes. Enfin, par exemple, moi, je fais de la pâtisserie maison assez simple. Hein. Je fais des tartes, je fais des gâteaux, genre, je sais pas, gâteaux yaourt, des gâteaux de Savoie, des choses comme ça. J'utilise plus jamais de farine blanche, en fait. Je suis passée à de la farine semi-complète et j'ai des résultats très, très satisfaisants. Donc, c'est vraiment une question d'habitude et puis de faire des essais.
Ce qu'on appelle blanche, en général, c'est T45, pour donner une référence. C'est vraiment le taux de raffinage.
On trouve toutes sortes de farines dans la grande distribution, dans son supermarché du coin. On peut trouver, est-ce que c'est simple?
Maintenant,
ou alors il faut chercher un peu?
Oui, supermarché
quand même plus en magasin, on va trouver plus de choix en magasin bio.
Ouais.
Parce que là on va vraiment avoir toute la gamme. En supermarché, ça dépend. Il commence à y avoir, je pense, des farines T80 comme
oui, T80 en a, parce que comme il y a plein de gens qui font du pain, et pour le pain, il faut quand même un peu de gluten, justement, et donc on a souvent des farines, on en trouve facilement, ouais, T80.
Petite idée de recette, Ariane ou Luc, pour faire une pâtisserie maison un peu sucrée.
Une idée de recette.
Alors, moi, je fais beaucoup de tartes. Ouais. Je fais des tartes en toute saison et donc je fais quelque chose qui, je dirais, entre la pâte brisée et la pâte sucrée, c'est-à-dire je mets pas beaucoup de sucre. Très souvent, je mets un peu de noisette dans la pâte qui va du coup lui donner un bon goût, mais je fais vraiment une pâte où je mets un petit peu de sucre, mais je mets vraiment très peu de sucre. Et puis après, je mets des fruits et je vais mettre éventuellement saupoudrer un tout petit peu de sucre, mais ça va être finalement très peu sucré. Si c'est de la rhubarbe, je vais mettre un peu plus de sucre que si c'est des pêches ou des abricots, parce que la rhubarbe, c'est quand même acide. Mais on s'en sort avec une pâtisserie qui est vraiment très peu sucrée. Pareil, moi, je fais beaucoup de... C'était un peu basique. Hein, je fais beaucoup de choses genre gâteau, yaourt, où je varie après la matière grasse, la farine, même éventuellement le yaourt. Et si on fait un gâteau avec des fruits dedans, par exemple, j'ai fait un gâteau aux framboises récemment, les fruits vont apporter un goût sucré, on va vraiment diminuer par rapport à la recette d'enfance qu'on a du gâteau au yaourt, on va mettre nettement moins de sucre.
Si moi j'étais en train de penser à quelque chose, comme c'est aussi la mode, enfin là c'est la mode en ce moment du sans gluten, beaucoup de gens en parlent, ils remplacent carrément la farine par le fécule, donc la pire chose à faire quoi. Donc on remplace un mal par par un autre mal, on va dire. Moi, en stage, il y a un truc que j'ai trouvé. Je fais un mélange de trois farines. C'est pois chiche, farine de lentilles, ou de, vous prenez une autre farine d'orge ou quelque chose comme ça, riche en fibres. Et une troisième farine, c'est de la fécule, c'est de l'arrowroot. Donc qui est aussi riche en fibres, qui remplace une, plutôt que de mettre de remplacer carrément la farine par de la fécule de,
je veux
de
bien revenir faire une autre émission sur le gluten.
Nous on a beaucoup de demandes là-dessus, et en fait on voulait vraiment faire trouver quelque chose qui puisse contrer un peu la fécule qui est remplacée par,
et vous mettez pas de farine de riz? Non, vous avez essayé,
alors ça, farine de riz complète, je l'utilise un peu pour faire de la pâte à choux. Ça marche pas mal, mais si j'ai des recettes avec mais je fais un mélange, moi je fais un mélange de trois farines pour vraiment avoir des fibres et, voilà.
Pourquoi c'est remplacer un mâle par un mâle de
la fécule? Parce que on parlait des sucres cachés, et le, enfin la fécule c'est bourré de glucides quoi, et donc enfin
mais il y a pas de gluten.
En fait la fécule réagit très bien au four pour plein de pâtes, que ce soit les pâtes sablées, les pâtes brisées, même les pâtes à choux, on y arrive. Plus qu'avec des farines très riches en fibres, on va avoir des choses qui vont moins développer, sans gluten, donc ça, on va pas arriver à... Mais il y a des farines comme la farine de riz qui réagit pas mal, qui a un développement, donc il faut arriver à trouver un mélange de
farines. Et la farine de pois chiche, la farine de lentilles, ça donne pas des choses un peu dures?
Si, c'est pour ça qu'il faut mélanger les farines. Si on fait 100% farine de pois chiche, on n'aura pas un...
Et le goût n'est pas trop fort?
Non, du tout.
Là, on parle pâtisserie, mais moi, quand je fais des pâtes à tarte salées, je mets un petit peu de farine de pois chiche, hein, vraiment une petite proportion, et c'est hyper bon.
C'est hyper bon, ouais, complètement.
Christophe, une idée recette?
Alors moi, je fais plutôt ce qu'on appelle le dessert de cuisinier, moi. C'est-à-dire, je travaille beaucoup le sucre, je travaille le sucre comme le salé, mais je pâtisse pas beaucoup, pour le coup. J'aime bien penser les desserts comme des plats cuisinés, donc je fais beaucoup de tartes sans pâte finalement. Non, c'est-à-dire que beaucoup de fruits de saison, juste très rapidement compotés, mais très rapidement, sur lesquels j'aime bien mettre tout un tas de mousse, donc des mousses en général, des mousses montées. Donc ce que j'aime bien faire, c'est une crème entière avec un peu de mascarpone pour la faire tenir, dans lequel j'ajoute souvent un peu de yaourt. Pour donner un petit côté acidulé, et je monte ça comme une chantilly avec beaucoup de vanille et un peu de sucre éventuellement, et c'est très vite fait, et j'aime bien faire ça.
Un petit quelque chose pour le croustillant?
Oui, on peut rajouter un petit quelque chose pour le croustillant, ça oui.
Croquant fondant.
Mais la texture, c'est vrai que c'est important. Donc voilà, j'aime bien les choses comme ça, qu'on fait comme on cuisinerait, c'est que ça se fait à la poêle, on monte une crème, il n'y a pas de passage au four. J'utilise assez peu le four finalement chez moi.
Et est-ce qu'on peut utiliser les légumes dans pâtisserie? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Oui, on peut, bien sûr.
Bien sûr, en fait, on fait ce qu'on veut, hein, au niveau de propriété. D'ailleurs, légumes, au sens botanique du terme, ça n'existe pas. C'est une convention considérée d'appeler légumes une partie d'une plante qu'on va manger salée. Mais il faut quand même savoir qu'une ratatouille, c'est une salade de fruits, hein, avant tout. C'est-à-dire que les courgettes, les aubergines, les tomates, tout ça sont des fruits.
Donc, on peut essayer. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le gâteau chocolat courgette, par exemple. Donc je pense que c'est toujours pareil, tout à fait intéressant expérimenté, et il va être très bon, très chocolaté. Après, je crois pas que ce soit une façon, c'est pareil, pourquoi cacher les choses? Vaut mieux apprendre à manger des courgettes que forcément les cacher dans les desserts. Alors ceci dit, j'ai souvenir d'un sublime dessert dans un endroit qui a disparu, qui était poivron chocolat.
Oui.
Et c'était hyper bon.
Oui, ça se fait, ou pour les chips, il y a les fameux carrot cake, traditionnels, ou les tartes, butternut, un peu façon cheesecake, tout ça marche bien.
Mais c'est l'heure tant attendue de la désormais fiction d'été de Maxime. Allez, c'est parti.
Pour un piquant bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Donc bienvenue pour votre nouvel épisode de cette fiction qui se passe donc sur un bateau avec un commandant. Et tout de suite, nous commençons.
Commandant Swanson, Commandant Swanson.
Qui est-il, Madame Glenway?
J'ai eu une indigestion suite au repas que nous avons fait après le bingo hier. Je pense qu'il y a eu du gluten dans la forêt noire.
Du gluten? Impossible, Madame Glenway. Tous nos ingrédients sont sans gluten. Vous pouvez demander à notre cuisinier. Ah bah tenez, justement, le voilà. Steve, vous me confirmez qu'il n'y a pas de gluten dans la forêt noire d'hier?
Je le confirme.
Alors comment se fait-il que j'ai eu un malaise hier soir?
C'est certainement pas de gluten.
Vous voyez, c'est certainement pas le gluten.
Par contre, c'est peut-être l'acétone.
Oui, c'est peut-être le quoi ?
Le quoi ? Bah oui, les cerises étaient pas assez rouges. Du coup, j'ai mis un colorant. Mais comme j'avais pas de colorant rouge, j'ai mis du rose. Mais ça a fait une réaction physique avec la mousse expansée.
La mousse expansée ?
Oui, c'est pour donner plus de matière à la chantilly, vu qu'elle n'arrive pas à monter avec votre connerie de lait d'amande. Du coup, la mousse expansée de la chantilly a rendu les cerises vertes fluo, et comme ça commençait à déteindre sur la pizza...
La pizza ?
Oui, j'avais pas de quoi faire une génoise. Alors j'ai pris le reste de pizza hier que la pâte. Hein. J'ai mis une solution pour dessaler la pâte, puis j'ai resucré avec de l'aspartame. Mais le dessalant et l'aspartame, ça fait une mousse bleue.
Et l'acétone dans tout ça ?
Attendez, j'y viens. Donc j'ai compris que la pâte à pizza était trop sucrée, donc j'ai mis un désucrant à la pâte à pizza que j'avais dessalé en la resucrant. Et là, j'avais quelque chose de convenable.
Et pourquoi l'acétone ?
Eh ben comme le chocolat était au lait et que des gens font des allergies, eh ben j'ai délactéifié le chocolat avec une solution à base d'acide citrique. Mais ça s'est collé à la mousse bleue. Et là, j'ai lu quelque part que l'acétone pouvait décoller le tout et ça a marché.
C'est tout ?
Bah non, le goût était dégueulasse. Donc j'ai rajouté des danettes au chocolat, mais elles étaient à la vanille. Donc j'ai mis du colorant marron, puis j'ai mis la farine pour remplacer le sucre glace, comme c'était déjà trop sucré. Mais l'acétone n'a pas aimé, et donc j'ai mis un peu de graisse végétale hydrogénée, du E123, du E866 et E856, et voilà, le tour est joué.
Oui bon, il n'y a pas de gluten quoi.
Non, pas du tout.
Eh bien voilà, vous pouvez manger tranquille, Madame Gladenway.
Merci.
Merci beaucoup, Maxime. L'émission touche à sa fin, il me reste juste quelques instants pour vous remercier. Ariane, on peut vous retrouver sur votre blog L'Art de Manger, retrouver votre livre en librairie. Et derrière les micros de BCBTL le podcast.
Voilà, BCBTL le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête et donc en mangeant ce qu'on veut.
Luc, on peut venir déguster vos pâtisseries au 15 rue Henri Monnier, Paris 9e et elles sont délicieuses et les chocolats également que l'on a dégusté pendant l'émission. Et enfin Christophe, comme vous êtes souvent en vadrouille, quel est votre prochain rendez-vous ?
Ouf, alors là, je ne saurais même pas vous dire, il faut que je regarde sur mon agenda.
Bientôt.
Oui.
Merci à Elodie, merci à toi Elsa de m'avoir prêté main forte ce soir. À la réalisation, un grand merci à Zoé qui a réalisé cette émission. Et vous pourrez retrouver le podcast dès demain sur le site de radiocampusparis.org. Mais avant cela, restez avec nous, la soirée continue sur Radio Campus, il est 20h sur le 93.9.